Des leçons importantes. Et vraiment, pour moi-même, que le Seigneur me parle, que le Seigneur, parce que ça peut être tout ici, hein, dans le cerveau, puis juste là, mais ça ne touche pas la vie. Et c'est pas ça la vie chrétienne. Quelqu'un peut aller à l'université, avoir des gros papiers, puis tout ça, et avoir une foi tout à fait desséchée. Et là, c'est vraiment des recommandations pratiques. Et puis, comme je l'avais montré souvent, c'était écrit à des gens qui souffraient beaucoup, vraiment de persécutions difficiles, le rejet. C'est difficile à vivre, le rejet. Et ces gens-là vivaient ces situations-là. Et quand même, ce qu'on va voir, c'est que Dieu a un message pour eux, puis ce message-là peut nous faire du bien aussi. On en a besoin. Fait que je propose qu'on lise le texte brut, sans rien dire, et ensuite on passe petit bout par petit bout en le mâchant pour voir qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous. Donc, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force de Dieu, que Dieu communique. Afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On peut commencer en priant. Demander qu'on reçoive quelque chose de Dieu. Pas juste du prédicateur, mais de Dieu. C'est la parole de Dieu. Prions. Seigneur, on se place devant toi ce matin pour que tu nous touches personnellement par le Saint-Esprit en appliquant ces paroles dans nos cœurs, Seigneur, que ça ne nous laisse pas indifférents, insensibles, sans être touchés, mais que tu puisses faire une action qui te glorifie en touchant nos cœurs. On te prie dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. OK. Juste pour faire une petite révision, la dernière fois, on avait vu des passages difficiles, tu sais, comme il est allé prêcher aux esprits en prison qui du temps de Noé, puis toutes ces affaires-là. Et puis, on avait vu quelques conseils concernant les textes difficiles. Et aussi qu'effectivement, il y aura un jugement. Et déjà en soi, comme au temps de Noé, il y a eu un jugement, qu'il va en avoir un. Fait que ça disait, finissons-en avec le péché, on s'applique, on continue. Puis ceux qui vous critiquent, ben écoutez, il y a une réalité de jugement pour eux aussi, mais découragez-vous pas. Et l'idée avec les textes difficiles, c'est de se concentrer sur ce qu'on peut comprendre. Il y en a déjà souvent, beaucoup, qu'on comprend bien. Fait que appliquons-nous à appliquer ces les textes qu'on comprend. Et là, le texte donc d'aujourd'hui, ça dit, « La fin de toute chose est proche. » Et c'est sûr que ces fois, ça peut paraître long, la fin. Puis de dire, quand est-ce qu'a commencé la fin? Bien, elle a commencé avec la première venue de Jésus. Mais là, ça fait longtemps que ça finit. C'est comme si ça n'en finit plus de finir. Et justement, juste pour se replacer, il y a des versets qui nous expliquent un petit peu c'est quoi cette affaire-là de la fin. Ces choses, dans 1 Corinthiens 10, 11, leur sont arrivées pour servir d'exemple aux gens de l'Ancien Testament. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous, mais à eux du temps de Jésus, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et c'est juste pour dire que la fin, dans le fond, on regarde nous autres la fin du monde, mais pour eux autres, la fin, c'est quand Jésus est arrivé. Parce que c'était l'accomplissement des prophéties, le Messie était venu, puis c'est comme si la fin commençait. Puis la fin, elle continue de continuer. Fait que c'est sûr que ça paraît long par bout, puis Tu sais, quand, c'est comme quand on dit ça, la fin est proche. Là, dépêche-toi, vite, dépêche-toi, ça achève. Ah, là, tu te dépêches. Mais là, coudonc, c'est que ça fait comme peut-être 2000 ans que je me dépêche. Puis, y a-tu une erreur? Et puis, je trouvais que c'était une difficulté intéressante quand même. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà questionnés. Hein? Comment ça marche, cette affaire-là? Il me semble que ça prend du temps à finir. Et puis, y a quand même plusieurs passages qui nous parlent de ça. Puis, je trouvais ça bon de méditer, s'imprégner, réfléchir à ça. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Pour eux autres, écoute, il n'y a pas de temps à perdre. Bon, désormais, ceux qui ont des femmes, soit comme n'en ayant pas, puis c'est juste pas concernant les femmes, celui qui a des possessions, celui, achale-toi pas, trouble-toi pas trop avec ça. C'est sûr qu'il faut s'occuper de sa femme, là, c'est très important. Mais dans le fond, il y a des préoccupations éternelles. Et puis, la fin est proche. Bon, en tout cas, ils vivaient ça dans le temps et c'était déjà la fin. On va regarder quelques textes un petit peu. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Fait que pour eux autres, pas de temps à perdre, le temps est compté. « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. » Et c'est là que ça soulève des questions. Tu dis, « Ouais, mais ça, un peu de temps, ça en fait déjà beaucoup de peu de temps. » n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Petits-enfants, c'est la dernière heure. Mais, hein, c'est ça. Vous voyez un petit peu la difficulté. Mais, dans le fond, l'explication, Pierre la donne lui-même dans sa deuxième lettre, et les gens s'impatientaient un petit peu comme nous autres, on pouvait s'impatienter. Et puis Pierre leur écrivait, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Ça a l'air comme d'une réponse peut-être simpliste là, pour nous faire taire. Et eux autres, ces gens-là souffraient. Puis là, ils disaient, « Mais coudonc, quand est-ce qu'il revient? Puis quand est-ce que ça sera la fin? Puis pourquoi ça dure? Pourquoi qu'on souffre si longtemps que ça? Il me semble que là, ça fait assez longtemps. » Et puis, il disait, non, écoute, il y a peut-être certainement des choses qui nous dépassent clairement et facilement. Mais il dit, pour Dieu, le temps est relatif à sa dimension, à lui. Et puis, il y a des bonnes raisons. Je pense que c'est ça l'idée. Il y a des bonnes raisons. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, qui retardent. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, il y a une intention, et c'est vrai que la fin semble s'étirer. Et dans un sens, par contre, je me disais, moi, ça me touche, ça me parle quand même, cette parole-là. Pourquoi? Parce que même si la fin apocalyptique semble tarder dans ma petite vie, ma fin personnelle, elle est proche. Et votre fin personnelle aussi, elle est indéterminée et certainement proche. Personnellement, on est tous, nous vivons tous au bord du précipice de l'éternité. Et je pense que là, c'est riche, ça commence à nous parler, la fin est proche. OK. C'est comme s'il nous dit dans le texte, là, niaisez pas, il n'y a pas de temps à perdre, la fin est proche. Et l'éternité, tu sais, c'est l'éternité loin de Dieu ou l'éternité près de Dieu, se joue, se détermine dans la vie qu'on vit présentement. Les enjeux sont énormes. On a tout misé là, au casino, toute notre vie est là. Et le résultat qui va en ressortir va en dépendre. On a des âmes éternelles. Souvenez l'histoire de Jésus qui disait, il y avait un mauvais riche, et Lazare, le pauvre, qui est mort, puis tout ça. Puis... Et donc, il parlait qu'il y avait une destinée, puis lui-même en parlait clairement de cette réalité d'après. J'ai beaucoup aimé ça, cette petite citation-là de Charles Spurgeon. Je trouvais que ça s'appliquait même aujourd'hui, ça fait une centaine d'années, là, mais « Il est possible de penser pouvoir bien vivre sans le Christ, mais vous n'avez pas les moyens de vous permettre de mourir sans lui. » On peut pas On n'a pas les moyens, on n'a pas la richesse de mourir sans un sauveur qui pourra nous secourir. Quand on va venir en jugement, chacun de nous va venir en jugement, où chacune de nos actions ou de nos inactions, de nos paroles, de nos pensées, on aura à y rendre compte. On n'a pas les moyens de se permettre de mourir sans lui. Donc, la fin est courte, si je reviens à ça. Il y a un petit texte comme ça, c'est comme une philosophie de notre époque. YOLO, you only live once. Et c'est comme, tu sais, let's party, parce que on a juste une vie à vivre, aussi bien en profiter. Il y avait un petit peu ça, tu retrouves ça un petit peu partout, comme dans la pensée de notre temps, de notre époque. Don't waste it. Gaspille pas ta vie. Profite-en. C'est le fun. Puis là, c'est quand on se pose des questions. Puis, as-tu du fun? C'est comme ça un petit peu la question. Oui, je me suis bien amusé. Mais c'est ça comme le but de la vie. C'est amuse-toi, là, profite-en, là. Puis la vie est courte, justement. Do what you love and do it often. Fais ce que tu aimes, puis fais-le souvent, parce que tu n'auras peut-être pas la chance demain. Profite-en donc. Puis je comprends pas les chrétiens, tu sais, ils parlent de la mort, puis tout ça. Pas le temps à perdre avec parler de la mort. Puis c'est comme si la pensée de la mort, ben, tu sais, on l'a tout enfermé à l'hôpital. On voit pas les gens mourir, tu sais, à la maison comme avant. Fait qu'on est peut-être la première société qui s'est déconnectée de la mort. Puis la médecine, elle poursuit, elle nous garde en vie longtemps, même si on vaut pas cher à un moment donné. Mais elle nous garde en vie longtemps. Fait que l'idée de la mort, c'est comme, on a le luxe, nous autres, là, de pas avoir à y être confronté puis à y penser. Fait qu'on se concentre sur la vie, puis bon, c'est pas mauvais, mais on oublie un gros morceau dans cette approche-là. Je trouvais ça représentatif, cette image-là, de Florence Servan-Schreiber, professeur de bonheur. Ça a l'air crédible, hein? Vivre l'instant présent pourrait être, tu sais, je ne sais pas au juste, mais je pense que ça pourrait être le vrai sens de la vie. Dans le fond, tu ne sais pas pantoute. Puis, et c'est pas ça l'idée. C'est pas, ben oui, vivre l'instant présent certainement, mais dans l'optique qu'il y a un avenir, qu'il y a un au-delà. Et juste pour le fun, on va regarder quelqu'un dans la Bible qui a mis ça en application, de vivre l'instant présent. C'était Salomon. Salomon, là, qui était béni, là, comme ça se peut pas, de richesse, de gloire, de nombreuses compagnes. L'expérience de Salomon. Si on la lit juste pour voir, parce que lui, il a comme amené au maximum cette philosophie-là. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie. Méchante épreuve, hein? Et tu goûteras le bonheur. Lui pouvait se payer tout ce qu'il voulait. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit au rire, insensé. Et à la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin. Drôle d'expression. Tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Il faut se rappeler que Salomon avait reçu de Dieu une sagesse dépassant tous ceux qui avaient vécu avant et tous ceux qui vivraient après lui, selon ce que Dieu lui a dit. Mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qui est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Il dit, on va checker ça, on va essayer de vivre la vie pleinement. J'exécutais de grands ouvrages. Puis c'est vrai, le temple de Salomon, le palais de Salomon. J'achetais des servantes, des serviteurs. Il s'est acheté bien des affaires. Il a fait de la shopping therapy. Ça fait du bien des fois de dépenser, là, mais c'est ça que Salomon faisait. Il faisait vraiment du bien à son petit cœur. J'amassais de l'argent et de l'or. Et là, il y a toute une liste de choses qu'il a amassées. Il y en avait du stock. Je me procurais des chanteurs, des chanteuses, des délices, des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Et je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. Puis ça continue. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Même dans son travail, il était content, satisfait, épanoui. Et là, il dit, je vis le moment présent, puis à fond. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite de vain. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Puis là, il y avait comme une note de vide. Il disait, ouais, c'est-tu juste ça? C'est-tu juste ça qu'il y a ici sous le soleil? Et ça l'amène un petit peu à l'autre pensée, peut-être, de YOLO, you only live once. Là, c'est you only die once. Tu ne meurs qu'une seule fois. Ne gaspille pas ta vie. Et c'est un peu ce que Pierre nous dit. Je sais que la vie est belle, la vie est bonne, mais il y a plus que ça. C'est juste une vie temporaire, puis il y a autre chose après. Tu as juste la chance de mourir une seule fois. Pense à ce qui vient aussi après. Et c'est un petit peu le contexte. Et je trouvais ça bon d'allonger là, sur cette notion-là, puis de se dire, pourquoi que je vis ma vie? Et puis, peut-être que non, moi, c'est le Seigneur qui passe avant tout, puis tout ça. Mais que dans la pratique, tu regardes qu'est-ce que tu planifies, où tu mets ton argent, où tu mets ton temps, puis tout ça, où tu trouves ton plaisir. Et là, tu vas voir, dans le fond, si tu es un YOLO ou un YODO. Ça a-tu l'air, mon affaire? YODO comme ça. You only die once. OK. Et donc, il dit, la fin de toute proche, de toute chose est proche, soyez donc. Et là, il va nous donner des recommandations. Donc, quatre choses en découlent. Premièrement, il dit, soyez donc sages et priez. Deuxièmement, il va dire d'avoir un amour ardent. Et troisièmement, il va dire d'exercer l'hospitalité. Et quatrièmement, il va dire de mettre son don au service. Fait que là, on va revoir ces quatre recommandations-là pour quelqu'un qui veut vivre YODO, you only die once, et de penser à l'éternité. Et donc, je pense que ça peut s'appliquer vraiment à nous, mais que ça ne reste pas juste au niveau de cérébral, mais que ça puisse atteindre nos cœurs. Et donc, cette idée-là, la fin est proche, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Ça faisait penser comme les athlètes olympiques. Hein? On en voit plus... On entend beaucoup parler de ça. Pour lui, la vie, c'est une préparation. C'est les Jeux olympiques qui s'en viennent, puis il va y avoir un jugement là-bas, une évaluation, la grande évaluation, et peut-être la gloire à venir. Et pour nous, c'est un peu comme ça, ici. Parce qu'il nous dit, soyez donc sages, là, ça, il y a quelque chose d'important, et tu vis en fonction de ce qui vient, parce que la vie ici est temporaire, est une préparation. Et je trouve que c'est un bon rappel. Il y a quelque chose de plus au-delà de la retraite tranquille. Il y a aussi des défis qui sont devant nous, même si on n'est pas à l'âge de la retraite. Donc, il parle, « Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. » Et peut-être pour eux autres, c'était plus évident. Ils vivaient la persécution, fait que la contrariété, l'adversité était beaucoup plus présente que pour nous. Mais nous aussi, on en a de la contrariété. On a de l'adversité. Puis si on regarde des fois, en ma propre vie, il y a comme une tendance au refroidissement naturel. Si je me laisse aller, là, je m'endurcis, je me refroidis, puis je deviens sensible. Mais il faut que je me retourne vers le Seigneur, que je me rapproche des frères et que je prie. Et là, la chaleur augmente aussi. J'en ai besoin pour moi, j'en ai besoin aussi pour mon Église, parce que l'Église elle-même peut dériver à perdre sa chaleur. On vit dans une guerre spirituelle. On ne sait pas les tragédies qui nous entourent. Tu sais, j'étais à l'expo avant-hier, il y avait un gars qui me parlait qui avait des pulsions suicidaires. C'était un gars, tu sais, riche, beau, jeune, intelligent, il travaillait pour une... compagnie financière, la plus grosse au Canada, puis mais il disait, cette semaine encore là, j'ai comme, je trouve la vie est vide. Mais tu sais, t'as une guerre spirituelle qui se vit là, devant tes yeux, nos compagnons, tu sais, les gens qui connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas d'espoir. qui ont des besoins, les tensions, les querelles, les chicanes, même dans l'Église, parmi les chrétiens. Il y a plein de combats, l'abandon de la foi, ceux qu'on connaît, qui ont marché, puis qui ont aimé, puis là, tout d'un coup, qui délaissent. C'est pas ce qui est arrivé à un tel. Mais oui, mais je suis plus Seigneur. Mais on a donc cette lutte-là qu'on vit. T'sais. Où est-ce qu'on va être dans 10 ans, si Dieu nous prête vie? Est-ce qu'on sera encore actif? Donc, il dit, « Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. » Et personnellement, j'ai besoin d'un réveil spirituel. Et on a besoin, comme Église, d'un réveil spirituel. Mais ça n'arrive pas en regardant la télé. Ça l'arrive en demandant, en implorant la grâce de Dieu. Et je pense qu'il veut et qu'il peut le faire aussi. Vous avez peut-être vu le film War Room. Et puis, ça nous démontre hein, que c'est, il vivait des tragédies, le divorce était là, à la porte, attiré par le mal, par le vol, le gars, puis tout ça. Puis il a fallu une repentance avec l'arme. Et comment c'est arrivé pour le gars qu'on voit ici en haut? La madame là qui avait encouragé sa femme à prier, et ça fait une différence. Fait qu'il nous dit de soyez sobre et sage pour vous livrer à la prière. Et honnêtement, la prière, c'est pas facile. Puis, je fréquente un groupe maison aussi. Puis, quand il vient le temps de prier, des fois, c'est difficile. C'est vrai? Et je pense que là, il nous dit, soyez sages et sobres, là, et pour vous livrer à la prière. Les enjeux sont importants. Tu peux gagner du terrain, tu peux en perdre aussi beaucoup. Et les groupes maison, c'est important. Ça nous soutient dans la foi. Et même si c'est difficile de prier dans les groupes maison, coudonc, au moins on prie un peu. J'avais mis ici des frères noirs, parce que je trouvais que dans cette culture-là, des amis d'Afrique, il y avait comme la culture de prier davantage. Peut-être parce qu'il n'y avait pas toute la technologie, toutes les ressources, les moyens, puis tout ça, mais boy, il y avait la prière. Et il y avait l'aide du Seigneur. Et là, il pouvait se passer aussi peut-être les réveils qui ne se passent pas chez nous. Et donc, si quelqu'un aime prier, peut-être de s'associer avec lui, moi aussi j'ai besoin de prier, et puis de trouver un soutien dans la prière. C'est un signe de dépendance. Fait que, est-ce qu'on dort ou est-ce qu'on prie? Donc, il dit, soyez sobres, veillez et sages pour prier. Si on reprend notre petit texte, pour vous livrer à la prière, avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. Car l'amour couvrira une foule de péchés. L'amour ardent, ça je pense qu'on comprend que ça dit. Mais là, pourquoi il dit ça? Car l'amour couvrira une foule de péchés. C'est une citation qui nous vient de Proverbes. Ça dit « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » Puis, c'est vrai, quand tu aimes quelqu'un, c'est facile de pardonner. C'est facile. Écoute, c'est correct. Mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, c'est vraiment difficile de pardonner. Vous vous souvenez de l'histoire de Sem, Japhet et Ham, les trois fils de Noé. Et puis, Noé avait fait une gaffe. C'est vrai. Il s'était pacté parce qu'il avait cultivé des raisins, puis il trouvait ça donc bon, le bon vin. Et puis là, il était tombé ivre, et en étant chaud, il avait enlevé sa tunique. Tunique, robe, je ne sais pas qu'est-ce qu'il portait, là. Mais là, il se prend... il était sur le party, puis... fait que là, son petit jeune de gars qui l'a... regarde donc papa, puis il a ri de lui. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé bavasser ça aux autres. Les deux frères, Sem et Japhet, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouh, ils ont dit, « T'as une minute, là, papa, c'est grave. Ça me fait de la peine. » Fait qu'ils ont pris un drap, puis là, ils reculaient. Puis, ils ont remis le drap par-dessus. Et puis, il va filer mieux tout à l'heure, tu sais, il va revenir à lui. Mais on voit ici que l'amour couvre toutes les fautes. Et c'est sûr que couvrir au regard des autres, des fois, tu sais, je peux voir un ami, un croyant, ça va pas bien. Il y a une faute. Peut-être comme Noé, mettons. Mais là, je peux faire comme Ham, et là, en parler un petit peu à tout le monde. Et je peux le couvrir du regard des autres aussi, tu sais, de dire, mais là, je peux aller le voir en privé, de dire, écoute, on dirait que ça marche pas. Y a-tu quelque chose qu'on peut faire pour t'aider? Dans le fond, la différence, là, j'ai pas camouflé. Camoufler, c'est, écoute, on n'en parle pas, puis tu vis dans le péché, puis tout est beau, je t'aime. Non, il y a un problème, je ne le camoufle pas, on va l'adresser, mais j'en parle pas à tout le monde. Vous voyez l'équilibre, différence? Et donc, l'amour couvre toutes les fautes. Il y avait un... Si on revient, là, on regarde ça, là, ça dit un amour ardent. J'avais lu l'histoire d'un croyant, et puis, il s'était fait blesser par un frère. Un autre croyant l'avait repris. T'es un pas d'allure, puis tout ça. Puis, il n'avait pas raison. Fait que c'est sûr, ça l'avait blessé. Là, il lui en voulait. Puis là, il s'est dit, non, c'est pas correct. J'en veux, tu sais. Il m'a traité de niochon. Il m'a traité de tout ça. Là, je suis fâché. Je suis ébouriffé. Je veux plus le voir. Là, après ça, il s'est dit, non, c'est pas correct. C'est pas correct. Je le pardonne. Et puis, il arrive, il écrit une petite lettre, et puis, écoute, tu sais, tu m'as traité de niochon, puis tout ça, mais écoute, je te pardonne, puis... Mais là, avant d'envoyer la lettre, et pensez à ce verset-là, « Avant tout, ayez un amour ardent. » Mais du coup, je l'ai pardonné, c'est correct. Non. « Mais avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. » Est-ce que tu l'aimes ardemment? Non. Et là, il s'est repenti de ça. Il dit, je ne l'aime pas ardemment, c'est pas vrai. Seigneur, tu me demandes de l'aimer ardemment, il doit y avoir possibilité. Moi, je n'ai pas cette possibilité-là, mais je te demande cette possibilité-là. Et le Seigneur lui a donné un amour, parce qu'il lui a demandé d'avoir de l'amour pour cette personne-là. Et ce que le Seigneur nous demande entre nous, et c'est là que ça doit dépasser le niveau cérébral pour atteindre le niveau du cœur, c'est avant tout, avant d'avoir raison, oui, je sais, il t'a traité de niochon. Et t'as raison. Et puis lui avait tort. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. Et c'est un sujet de repentance. Et peut-être ça l'arrive, hein? Mais juste peut-être pour voir quand même d'autres textes à cette saveur-là, là, parce que Pierre, dans la même épître, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. » Ça se ressemble. « Aimez-vous ardemment. » C'est exactement ça. « Les uns les autres de tout votre cœur. » « Enfin, soyez tous animés de la même pensée, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité, encore dans 1 Pierre. » On dirait que quand les gens souffrent, peut-être qu'on se replie sur soi-même, peut-être qu'on a moins de patience. Mais non, il dit, même si tu souffres, comme les gens à qui Pierre écrivait, aimez-vous ardemment, sinon vous ne vous en sortirez pas. Puis quand tu souffres, tu as besoin de l'amour fraternel ardent. Au moins tu as cette consolation-là. Au moins quand tu te rassembles peut-être dans ton groupe maison, tu trouves cet amour-là dont on a besoin quand on souffre. À la pitié, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité, d'ajouter toutes ces choses-là, les unes aux autres. Et ça continue, on les connaît bien, et qu'il y a un problème aussi qui peut venir. Et parce que l'iniquité se sera accrue, disait Jésus, la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre, ça va arriver, ça va être difficile d'avoir un amour ardent. Et puis là, peut-être qu'il y en a qui diraient, écoute, franchement, là, je ne l'ai pas. Il y en a une personne, tu sais, je ne suis pas capable. Elle me tape ses nerfs, puis je suis pas capable. Qu'est-ce que je fasse? Ça arrive, hein? Peut-être que on lèvera pas les mains, là, mais ça. C'est un défi que ça nous dépasse. Des fois, même ceux dont on est plus proche, dans notre groupe maison aussi, cette personne-là, pas capable. Et puis, là, on se sent comme justifié. Il ne peut pas me demander ce dont je ne suis pas capable. Mais il sait très bien qu'on n'est pas capable. Et ce qu'il veut, c'est qu'on s'en repente et qu'on lui demande de l'aide. Et quand on fait, on dirait, cette démarche-là, là, il peut agir. J'ai pas d'amour pour cette personne-là. Tu veux que je l'aime. Toi, tu l'as aimé, tu as envoyé ton fils mourir pour cette personne-là. Alors, certainement, tu dois l'aimer. Et tu voudrais que j'aie le même amour parce qu'on est des deux enfants du même père. Et il honore cette prière-là. Il va la répondre. Tout de suite, peut-être pas, mais ça va nous transformer si on lui demande de nous transformer. Vous êtes d'accord avec ça? Je sais bien que vous ne pouvez pas me répondre si vous n'êtes pas d'accord, là, mais... c'était juste pour voir si est-ce qu'on accepte ou non. Puis si tu ne l'acceptes pas, peut-être qu'il y a quelque chose à régler avec Dieu. Mais je pense que le Seigneur est vrai et la vie chrétienne doit nous transformer. Si la vie chrétienne ne nous amène pas à être différents, ce n'est pas la vie chrétienne. C'est une imitation de vie chrétienne, mais il désire pour nous qu'on ait la victoire. Il veut réaliser en nous la victoire. Le nom de Jésus est puissant pour nous transformer. C'est comme point final, c'est ça la vérité. Donc, si on revient dans notre petit texte, où est-ce qu'il parlait de... Il y avait quatre choses qui découlaient que la fin... de toute chose est proche, soyez donc, il y avait donc d'être sage et sobre afin de vous livrer à la prière, avant tout, ayez un amour ardent, et c'est ça le critère pour voir si c'est un amour, c'est comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et la qualité d'amour qui demande d'avoir les uns pour les autres, c'est comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Et comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Bon, je me répète. Si on continue un petit peu là, ça dit d'avoir l'amour ardent, exercer l'hospitalité des uns envers les autres, sans murmurer. C'est intéressant hein, qu'il raconte ça. En voulant dire qu'il savait quelque chose de l'histoire qu'on ne connaît pas, qu'il y aurait possibilité d'avoir des murmures. Parce que, bon, l'hospitalité, c'est peut-être pas évident. C'est une démonstration d'amour aussi. L'hospitalité, c'est comme s'inviter chez nous, entre nous, par libéralité, générosité, amour, charité. Puis là, la question se pose, tu sais, on peut être une église qui se visite, qui s'invite, puis dans le fond, la meilleure place où vivre l'hospitalité, c'est dans les groupes maisons. Et là, ça fait comme trois fois que je mange dans les groupes maisons. Peut-être que ça serait bon, le mois de septembre s'en vient, hein? Et puis au mois de septembre, il y a des groupes maisons qui reprennent. Peut-être que ça serait bon pour ma vie chrétienne de me joindre à un groupe maison. Là où l'amour fraternel pourra se vivre, là où la prière pourra se vivre, là où l'hospitalité pourra se vivre, là où la vie chrétienne pourra se vivre, là où je vais rencontrer des gens qui vont m'aider à me dépasser dans ma nécessité d'endurer les gens et de ne pas murmurer, par exemple. Parce que si c'était ça, d'exercer l'hospitalité sans murmurer. juste pour dire... Quand tu es dans un milieu, plaçons-nous à leur place, OK? Ils étaient persécutés. Il y avait des Romains, en tout cas, s'ils se faisaient croquer par des lions dans le temps, il faut croire que ça... Il y avait de l'adversité pas pour rire. Et il y avait des prisonniers aussi. Si tu reçois le groupe maison chez vous, comme il y en a dans les églises persécutées, hein? Quand il en identifie un, il remonte la filière. Ah, il s'en va dans une réunion. Là, ils prennent les noms de tous ceux qui étaient à la réunion. Ça refroidit pas mal l'hospitalité. Quand tu sais que tu reçois le responsable et puis que ton nom va être pris en note par les autorités. Mais donc, ils vivaient une pression, là, ces gens-là. Il y a une adversité là-dedans. Si on regardait un petit peu d'autres versets autour de l'hospitalité, OK? Dans Hébreux, souvenez-vous de ses premiers jours où, après avoir été éclairé, il avait compris la beauté de l'amour de Dieu et du pardon en Jésus-Christ. Il avait été éclairé. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Eux autres aussi. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobes et aux humiliations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Les prisonniers, tu ne peux pas exercer l'hospitalité, viens chez nous. Mais non, il est en prison. Mais tu dois exercer l'hospitalité d'une autre façon. Tu dois, toi, amener comme la maison chez eux, la nourriture, peut-être des vêtements. Et là, il disait, vous avez eu en effet de la compassion pour les prisonniers. Et là, c'est donc ce thème-là de l'hospitalité sans murmurer, ça touche ceux que de notre famille spirituelle ici, le foyer spirituel de l'Église, de notre groupe maison, mais aussi au-delà de ceux qui ne peuvent pas venir, sont peut-être même dans d'autres pays, ceux qui sont persécutés, de ne pas être insensibles à leur situation. Persévérez dans l'amour fraternel, dans Hébreu encore, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans savoir. Je ne savais pas ça, hein? Mais ils ne devaient pas les connaître très bien, ces personnes-là qui recevaient chez eux. Ils ne savaient pas d'où ils venaient, parce que c'était un ange, puis ils ne savaient même pas. C'est bizarre, hein? Souvenez-vous des prisonniers. Tiens. Là, tu ne peux pas le recevoir chez toi, lui. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités comme étant vous aussi de même dans un corps. Il dit, pense à eux autres. Puis ça me faisait penser, il y a des organismes comme ça qui s'occupent de ceux, je ne sais pas si vous voyez bien, là, la voix des martyrs, The Voice of the Martyrs, ça existe ici aux États-Unis, au Canada, puis qui s'occupent justement de ceux-là. Puis c'était beau, avec l'argent que des gens d'église comme ça envoient, ils avaient acheté des réserves qu'on voit un petit peu dans la photo, peut-être que vous le voyez mal, là, mais pour amener de la nourriture aux chrétiens du Yémen qui vit une guerre civile. Et puis là, il la ramenait, il y avait un gros sac de riz, après ça, une boîte de ça, puis peut-être un pot d'huile par-dessus, là, à droite, là. Puis là, tu vois les femmes toutes avec le burqa, là, puis qui venaient chercher la bouffe, puis tout ça. Et donc, c'est juste de dire que c'est des possibilités qui nous sont offertes de penser à ceux qui souffrent. Il y avait un autre organisme aussi. Pourquoi je les mets? C'est comme pour penser un petit peu à eux autres. Si on veut soutenir et exercer une hospitalité, on peut. Là. Il y a des organismes de confiance qui aident, open doors, les portes ouvertes. Ça partit avec Frère André, mais pas le Frère André de l'oratoire, là, un autre. Serving Persecuted Christians Worldwide, qui sert les chrétiens persécutés à travers le monde. Et puis c'est beau, puis de voir ça, il dit de nous en souvenir d'eux autres. Une façon aussi d'exercer l'hospitalité, il y a des chrétiens de Trois-Rivières qui ont débuté à l'UQTR avec le groupe biblique universitaire où je m'implique, une banque alimentaire. Et certains qui sont ici s'impliquent là-bas, j'ai pas demandé la permission, mais qui s'impliquent là-bas, puis je trouve ça beau de voir leur sensibilité, mais plusieurs autres, j'ai pas mis toutes vos photos, là, je m'excuse, mais de dire, tu sais, parce que là, il vient comme des musulmans. Vendredi, de l'autre semaine avant, j'ai rencontré deux musulmans là-bas. Et puis, le cœur était comme plus tendre, parce qu'ils recevaient de la bouffe, tu sais, avec Moisson Mauricie, puis tout ça. Puis là, il y avait comme quatre gros sacs de bouffe. Puis quelque part, ça parle au cœur. C'est une forme d'hospitalité. Puis pas de farce, je lance le petit message, là, s'il y en a qui veulent s'impliquer, qui ont un peu de temps, ils ont besoin d'aide à l'université, parce que les étudiants, ils font la distribution puis tout ça, mais bon, ils ont leurs études aussi, mais des fois, il y a un roulement, tu sais, on leur souhaite après 3 ans, 4 ans de graduer, puis là, ils s'en vont ailleurs, mais là, il faut qu'il y ait du monde qui reste et qui s'implique. C'est une belle occasion de s'impliquer. Une autre façon même de faire de l'hospitalité, là je n'étire pas là, le sens vraiment, mais il y a toutes sortes de non-chrétiens qui vont à la villa. Et puis, c'est une belle façon de leur montrer de l'amour. La Villa du Carmel, un camp pour non-chrétiens. Et j'avais une autre photo ici. Tu sais, j'avais trouvé ça. Élisabeth Lagotte, elle venait souvent ici à l'église. Tu sais, ces deux jeunes, puis Élisabeth Lejeune, il y avait Abigail aussi qui s'est impliquée. Puis d'autres là, qui s'impliquent dans les camps. Mais je trouve que c'est une tellement belle façon de montrer le spirit. Tu sais, je regarde ici le petit jeune ici, Alexis. Et puis les autres là, qui vivent des choses intenses. Et que ces moniteurs, ces monitrices étaient là pour s'occuper d'eux, tendre la main. Et pour nous, comme Église aussi, on a envoyé, je pense, 500 $, 700 $, hein? Quelque chose de même, pour soutenir la Villa du Carmel. Et s'il y en a qui veulent s'impliquer, des fois, faire la vaisselle, c'est une façon de montrer l'hospitalité. Les gens viennent, sont touchés, les jeunes sont touchés par l'amour de Dieu. Ils reviennent, puis ils reviennent, puis ils reviennent. Elle, ça fait, je pense, 4-5 ans qu'elle est là. 4 ans? Bon, au moins. Et puis, le message passe. Mais c'est une forme d'hospitalité, mais dans le fond, ils viendront pas, ils sont pas parmi nous, qu'on peut exercer. Bon. Si on retourne dans notre petit texte, OK? La quatrième point, c'était d'exercer nos dons. C'est une façon de montrer l'amour. Tu sais, ayez les uns pour les autres un amour ardent. Bien, une façon, c'est d'exercer nos dons. Puis, un autre verset qui renforce la même notion. Dans 1 Corinthiens, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Or, à chacun, tu vois, il y a le chacun ici, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Chacun, il y a au moins un don. C'est ça que ça dit en français? Et puis là, il répète, c'est « Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Fait que là, au service des autres, à peu près le même sens, hein? Et puis là, c'est sûr, ça serait facile de culpabiliser les gens. « Hey, là, qu'est-ce que tu fais, toi, à l'Église? Là, tu fais-tu... » Parce qu'il y en a qui disent, tu sais, le 20 % font 80 % de la job. Puis là, de culpabiliser. « Tu fais-tu partie du 20 % ou du 80 % tu sais? » Puis de jouer ce petit jeu-là. Mais je pense que ça serait pas... C'est pas ça l'idée. Comment je le vois, là, c'est que c'est comme un privilège qui nous donne de s'impliquer, de faire de quoi. Je parlais à des musulmans à l'université, puis ils me disaient, je leur demandais, d'après vous, là, c'est quoi un chrétien? Bien, un chrétien, il doit croire au pape, il doit donner de l'argent, il doit aller à l'église. Mais là, j'ai dit, si je te disais que toutes les choses que tu m'as dit, il n'y a rien... veut dire, c'est des bonnes choses, là, mais presque, mais il n'y a pas de doigt. Si moi, je ne vais pas à l'église, il n'y a pas personne qui va m'achaler. C'est que tu devais aller à l'église. Non, tu vas à l'église parce que c'est le fun, ça me fait du bien. Puis je vois les autres croyants, puis on chante ensemble, puis ça réchauffe mon cœur. Quand mon cœur est froid, là, on chante des chants, puis ça réchauffe le cœur. J'y vais parce que ça me fait du bien. Je dis, c'est comme si t'as ta conjointe. Si tu amènes des fleurs parce que tu dois amener des fleurs, ben oui, c'est là tes fleurs. Quin. T'es contente, là, c'est ta fête, bon. Hein. Ben oui, oui, ils sont belles, là, mais je devais t'es donné, c'est ta fête. Là, elle prend les fleurs, puis elle les pitch de même, puis elle veut pas te voir la face le jour de sa fête. Mais si tu le fais par amour, mais c'est ça, quand on fait là, les œuvres, là, mettez chacun au service des autres les dons que vous avez. Il n'y a pas d'obligation. Mais boy, ça fait du bien. Et ça l'enrichit, ça l'épanouit. Et puis, on manque de quoi? Puis, tu sais, quand on fait des appels, des fois, il manque quelqu'un, la garderie, la pouponnière, l'école du dimanche, fête foraine, whatever. C'est pas plate pour l'activité qu'il n'y aura personne. C'est juste plate pour les chrétiens qui n'ont pas catché la game. Que c'est juste le fun et de s'impliquer, puis de servir le Seigneur. Il n'y a rien de trop beau pour lui. C'est sûr, le problème, c'est que des fois, on le fait pour les autres. Puis c'est un petit peu ça la suite du texte. Je suis en train de perdre mon ordre, là. C'est ça, pas servir par pression légaliste, mais parce que Dieu change et remplit mon cœur de son amour. Et c'est ça, quand ça commence, comme de bons intendants, c'est un gérant. Fait que là, il donne des affaires, puis il dit, occupe-toi-en, puis amuse-toi avec ça. C'est comme dans une équipe de football, soccer, là, tu sais. Où est-ce que tu as des dons, puis tout ça, puis le coach t'envoie de jouer, hey, t'es content de jouer, puis si... Mais là, si tu sers l'équipe, tu es content quand l'équipe gagne. Si tu sers toi-même quand tu jouais dans l'équipe, là, j'ai pas joué assez souvent, ou l'autre, il se force pas, il y a juste moi qui cours ici, puis là, vous me faites pas de passe, puis je dis le gars, là, comment qu'il appelle ça, ceux qui se tiennent devant un but, là, pour avoir toutes les passes, là? Tu sais, c'est un C2. Tu sais, ce gars-là, là, il pense pour... Lui, est-ce qu'il joue pour l'équipe? Non, il joue pour lui. Fait que quand il joue pour lui, c'est sûr qu'il n'est pas content. Puis en tout cas, moi, je travaille bien plus que toutes les autres. Puis quand tu mesures comme ça, là, l'affaire, puis tu te compares aux autres, c'est sûr que ça tue toute la joie. Pourquoi? Parce que tu ne sers pas l'équipe, tu te sers toi-même. Puis si tu t'impliques à l'Église pour que le pasteur... Hey, félicitations! Regardez ici, là, cette personne-là a fait des belles affaires. Si c'est pour ça, ça va être vraiment décevant quand ça n'arrivera pas, puis ça n'arrive pas souvent. Mais si on s'implique pour servir le Seigneur, le Christ, en fond, que personne ne l'a vu, je savais même pas que personne ne l'avait même pas vu, mais Dieu l'a vu, le Seigneur l'a vu, puis ça me donne une joie, c'est ma paye. Et puis c'est ça... C'est ça l'enjeu d'une attitude saine face au service. Fait que là, si on regarde le texte, mettez chacun au service. OK, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu. Il nous a fait des cadeaux d'avoir un petit peu de santé, un petit peu de pouvoir servir. Il y en a qui aiment prier, il y en a qui aiment parler, puis tout ça. Il y en a qui aiment différentes formes de service. Mettez chacun au service les uns des autres les dons que vous avez reçus. Pas parce que tu es obligé, donc, mais parce que c'est une joie de servir notre maître sans compter. Généreusement, puis si on pouvait en faire plus, on en mettrait plus. Je sais qu'on a nos limites, là, mais c'est juste quand même de penser à ça, que la notion de sacrifice, elle est chrétienne. Puis elle est belle aussi, elle peut être bien vécue. C'est sûr que si on demande à quelqu'un de se sacrifier, puis il veut pas, c'est pas beau pantoute. Mais c'est quoi, c'est Monsieur Charles Studd, je sais pas si je l'ai ici dans les diapos, là, qui avait dit ça. Si Jésus-Christ est effectivement le Fils de Dieu, et que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi, alors il n'y a aucun sacrifice qui est trop grand que je puisse lui donner de ma part. Quand on le fait pour le Seigneur, il n'y a pas. C'est pas trop. C'est juste plus de plaisir de le faire. Et là, il va parler de quelques exemples, donc, de l'exercice de ces dons-là. Fait que si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu, et aussi si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Donc, il semble, Pierre, répartir en deux catégories, ceux qui parlent puis ceux qui servent. Je sais pas pourquoi, là, mais bon. Et don de parole dans l'abîme, il semble avoir l'enseignement, l'exhortation, l'évangélisation, la prophétie, une parole de connaissance, parole de sagesse, c'est tout des... si quelqu'un parle, un don de parole. Don de service, on mentionne libéralité, de donner généreusement. Et encore là, tu sais, tu donnes pas parce que t'es obligé, mais tu donnes parce que ça te fait plaisir. Hey, ça va aider la cause de mon Sauveur. C'est donc le fun. C'est comme ça que ça doit être, de donner. Et on donne beaucoup plus par amour que par pression. La libéralité présidée, donc il y en a qui ont le don de gestion, puis qui voient les choses d'administration, de guérison, de miracles, de discernement, des langues, d'interprétation, le don de la foi, ou don de miséricorde. Fait qu'il y a toute cette variété de dons-là qu'on a à exercer comme pour le Seigneur, pour lui faire plaisir. Et puis, une chose intéressante, là, ça parle, peut-être que je vais le voir sur la prochaine diapo, ça dit, il y a comme ces deux dons-là, quelqu'un parle, quelqu'un accomplit un service, mais il y a une façon de le faire. C'est ça que je veux dire. Si tu parles, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, pas de n'importe quelle façon. Qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Et puis, dans le fond, c'est comme moi ici. Si j'adresse la parole, il dit, fais bien attention. Tu dis les choses que Dieu aurait à dire. Dis pas les choses que toi t'aimerais dire. On n'est pas évalué sur la créativité, des belles idées, une belle philosophie personnelle, mais on est évalué sur la fidélité. Fait que la note, là, dans sa grille de correction, il n'y a aucun point attribué pour la créativité. Il y a de quoi, il va peut-être en enlever. Et puis, mais tous les points, 100% des points, sont attribués à la fidélité. Est-ce que ton message était fidèle? OK, parfait, c'est beau, ça passe. Sinon, ça vaut rien. C'est des belles pensées, mais c'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'il annonce les paroles révélées ou les oracles de Dieu, c'était les paroles révélées. Et là, de servir, accomplir un service, qu'il le fasse à la force que Dieu communique. Tu trouves pas ça spécial? Puis, dans le fond, c'est vrai que servir, ça peut être épuisant, tu sais. Élisabeth, puis Élisabeth était au camp, mais souvent, il était fatigué. Puis Fabrice, dont on a vu la photo, fatigué, puis ils ont beaucoup de responsabilités. Mais le Seigneur donne une force. Il y a une force qui communique. Et s'il nous appelle à cette place-là, il va nous donner la force pour accomplir cette chose-là. Fait que peut-être que tu dis... Non, je me sens pas vraiment capable, je vais laisser ma place à un autre. Mais peut-être qu'il dit, non, écoute, c'est là que je t'appelle, puis tu vois là, les circonstances, les gens ont reconnu ton don, puis tout ça. Fait que, vas-y, puis je vais te soutenir là-dedans. Il y a cette réalité-là, et il veut qu'on la fasse comme ça. Pourquoi? Afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire. Et pour lui, c'est important. Il y a une intention là-dedans. Il sait que des fois, ça va dépasser nos capacités. Mais il dit non, vas-y. Avec la force que Dieu communique afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. En fond, je pense qu'il n'avait pas eu besoin d'écrire cette phrase-là, mais ça lui faisait plaisir de l'écrire, t'sais, de dire une louange à Dieu. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'était juste pour le fun, on dirait, qu'il a écrit ça, pour faire plaisir à Dieu. Donc, si on revient aux quatre petits points qu'on a vus. Le Seigneur désire qu'on porte du fruit et qu'on porte du fruit en abondance. Des fois, on pense, c'est vrai, le salut est gratuit. Il nous a donné une faveur. On vient ici, il n'y a pas de pression. Mais il y a un désir de la part de Dieu à ce qu'on porte du fruit et qu'on porte du fruit en abondance avec la force que Dieu communique. Ce n'est pas une pression, mais c'est un désir de sa part. Et que le Seigneur nous donne de pouvoir répondre à ce désir-là en comprenant puis en ayant la joie de le faire. Est-ce que ça va être tout le temps joyeux? Non. Mais il va y avoir de quoi. Ça va nous faire grandir. Ça va nous rapprocher aussi les uns les autres. Est-ce qu'on prie pour ça? Allons-y. Seigneur, on se présente devant toi en te demandant ton aide. Maintenant qu'on a entendu ta volonté, ton désir envers nous, on te prie pour la force et la grâce de t'obéir. T'es un Dieu, t'es pas un... quand tu dis quelque chose, tu sais ce que tu dis, puis tu veux dire ce que tu dis. et tu désires qu'on porte du fruit en abondance. Et on te prie pour toute notre Église ici, que la chaleur du Saint-Esprit nous habite, que le désir de te servir, de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner, nous habite, parce qu'on te le demande, Seigneur, dans la puissance du nom de Jésus, parce qu'on se tourne vers toi, qu'on se repent pour la dureté de notre cœur, pour notre indifférence, pour notre méchanceté envers un frère, une sœur. Et donne-nous d'avoir des guérisons entre nous, de blessures qui peut-être traînent depuis trop longtemps. Donne-nous, Seigneur, de nous rapprocher dans l'hospitalité, dans les groupes maisons, de surmonter la timidité, l'isolement, puis les valeurs de notre société qui nous portent à s'isoler les uns des autres. Mais qu'on vive, qu'on reçoive le soutien que tu veux qu'on reçoive des groupes maisons. Et qu'on n'oublie pas, Seigneur, ceux qui souffrent, ceux qui sont persécutés, ceux qui sont prisonniers. Applique ces paroles à nos cœurs, Seigneur, pour la gloire de Jésus-Christ. Amen.